Chers auditrices de Radio Capi, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de la Tribune de la Presse que j'ai l'immense plaisir de la présenter avec des confrères journalistes ici au studio et au téléphone. Au cours de ce magazine, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant cette semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir l'investiture du président américain Donald Trump le 20 janvier dernier et la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Jack Fouraïcha. Il est directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi. Nous sommes là dans la province de Tanganyika. Jack Fouraïcha, bonsoir et bienvenue dans ce magazine.
Bonsoir Tati, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi.
Pascal Kambala, vous êtes journaliste de la rédaction de la radio Biwan, basée ici à Kinshasa. Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous de la Tribune de la Presse de Radio Capi.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de la radio Biwan, mais particulièrement je salue les habitants au niveau de Goma, Sake, de la partie est du pays qui sont victimes injustement de cette agression barbare où les enfants sont tués, les mamans ont laissé les champs, les papas tués. Mais j'appelle à tous les Congolais de se mobiliser pour que cette agression cesse. Il est temps que les Congolais se retrouvent la paix.
En face de moi, Jeringoua, il est rédacteur en chef du média en ligne apamedia.net. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de la Tribune de la Presse.
Bonsoir Tati et merci de m'avoir.
Tati Mapoukou, c'est moi qui présente cette Tribune de la Presse. Kéline Kouté coordonne ses numéros sous la supervision de Martin Tsebujangwe et Pierre Diassinois s'occupe pour sa part de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix à Matadi au Congo central. Vous nous suivez sur la fréquence modulée 102.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine hebdomadaire La Tribune de la Presse. Comme d'habitude, vous avez chacun une ou deux minutes pour commenter l'effet d'actualité qui a captivé votre attention durant cette semaine qui est en train de finir. On va commencer par vous, Jack Fouraïcha, nous rappelons que vous êtes journaliste et directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi dans la province de Tanganyika. Dites-nous, quelle est la nouvelle qui a retenu personnellement votre attention cette semaine qui est en train de finir?
Oui, merci une fois de plus Tati Mapoukou, merci également Justali, tous les co-débatteurs. En fait, l'actualité qui m'a marqué, c'est, je vais commencer par chez nous, dans les Tanganyika. Où l'actualité jusque-là reste dominée par le lancement des travaux pour la modernisation des routes de la ville de Kalemi. Ce lancement est critiqué aujourd'hui par plusieurs personnalités de la province. On a lancé en 2023, on a encore lancé en 2025. Mais malheureusement, on lance, mais il n'y a pas de démarrage. On a fait un tour dans presque toute la ville. On n'a pas encore vu où on a déjà commencé les activités. Une autre activité ou un autre événement qui nous a vraiment marqué, c'est l'annulation. Et d'ailleurs, qui était parmi les sujets d'aujourd'hui, l'annulation de l'ajustement du SMIG par madame la première ministre. C'est vraiment rigolant dans un pays où les gens sont très mal payés, mais le SMIG c'est bien. Il dit que désormais le SMIG revient à $5. Vraiment, c'est un événement, c'est une information qui nous a touché, surtout nous des radios communautaires, nous qui travaillons pour les bas peuples, c'est là que on se rend compte que c'est de manquer à une population qui souffre, à une population impayée depuis un certain moment, des fonctionnaires de l'État qui sont impayés, les enseignants. Imaginez un enseignant qui est payé moins de $100 pour lui dire que désormais le SMIC devient à $5, c'est vraiment c'est manquer de cette population qui souffre aujourd'hui à l'Est et partout en RDC. Voilà, peut-être ce que je peux dire pour cette soirée.
Merci beaucoup, Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kalemi et que vous êtes rédacteur en chef, directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi. Nous sommes là dans la province du Tanganyika. Je rentre ici à Kinshasa pour donner la parole à Pascal. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la radio Biwan. Dites-nous personnellement, quelle est la nouvelle qui a retenu votre attention durant cette semaine qui est en train de finir?
Merci beaucoup. En fait, pas une nouvelle, mais en fait, j'aimerais juste relever un élément, un fait. Vous savez, l'État congolais dépense beaucoup d'argent à l'heure actuelle pour la construction et la réhabilitation des routes. Mais je me pose la question, les routes réhabilitées ou construites, en quelle durée? Si vous arrivez à l'UPN, croisement avenue Masikita Yumbu, je me pose la question, où est passé les bureaux contrôle des techniques? Où les BTC? Où sont passés les bureaux de contrôle, des missions de contrôle? On ne peut pas, d'un côté où l'État sort l'argent, beaucoup d'argent pour construire des routes, et après 3 mois, 6 mois, dégradation des routes. Je me pose la question, on se moque de qui et pourquoi ces genres de situations? Donc, il faudra que je le répète, il faudra que le bureau de contrôle, le BTC, qu'on arrive à responsabiliser aussi les sociétés qui vont recevoir les missions de contrôle des travaux effectués. Ils doivent engager aussi des responsabilités. Parce que d'un côté, nous voulons moderniser notre vie, nos routes, mais de l'autre côté, on crée des routes, comme on dit, de seconde main ou quoi, je ne sais pas quoi dire. Donc, il y a un sérieux problème. On doit veiller sur la qualité de route, la qualité même, je veux aller même des bâtiments publics qu'on est en train de construire. On ne peut pas voir l'argent sorti de caisse de l'État, des trésors publics, et qu'on puisse construire des routes qui ne répondent pas aux normes. On se pose la question, où sont tous ces services de contrôle de route? Que fait le bureau technique de contrôle? C'est anormal, ça. Allez-y au niveau de l'UPN, croisement, disons, Masikita, Yumbu. Mais il y a le tout qui sont là. C'est anormal ce qui se passe dans notre pays.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la radio Biwan, un organe de presse généraliste basé ici à Kinshasa. C'est vrai, il n'y a pas que en Aliem, dans presque toutes les communes, dans presque tout le carrefour, des routes sont cabossées et ça rend difficile la circulation des personnes ici au niveau de la capitale de la RDC. Je me tourne vers vous, Jerry Ngoua. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne apamedia.net. Dites-nous, quelle est la nouvelle qui vous a personnellement retenu votre attention le long de cette semaine?
Le long de cette semaine, merci Tati. La nouvelle qui a retenu notre attention à la rédaction de APA Media, étant un média de proximité, c'est la crainte dans les airs. Nous avons le premier cas, l'atterrissage raté d'un aéronef dans le Tanganyika.
Là où se trouve cher collègue Jacques Fouraïcha.
Et il y a aussi
Air Kasaï qui est tombé là-bas.
Et d'ailleurs, pour ajouter quelque chose, vous et moi avons été passagers de cet avion vers le Maïndombe et tout.
On a dû retourner même une fois. Une petite réparation et puis voilà.
Exactement. Et dans le même souffle, il y a aussi une autre compagnie aérienne avec un grand avion ici à Kinshasa qui a pris les airs et 20 minutes plus tard a su revenir. Bon, nous nous posons la question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que nous avons baissé la garde ou le contrôle, la sécurité des passagers parce que nous avons besoin des entreprises ou des investisseurs dans les secteurs de l'aviation? Nous sommes en train de quoi? Et pire encore, avec Mongabaon qui a failli s'écraser 20 minutes après son décollage.
J'ai vu même dans les réseaux sociaux des vidéos des passagers, des passagères au fait qui étaient en train de prier à l'atterrissage parce que ils sont retournés et c'est compliqué.
Et jusqu'à ce point, je ne sais pas si je me trompe, peut-être que ça s'est fait ce matin, Mongabaon n'a pas fait rapport de cet accident, aux organes responsables.
Ouais.
Et ça craint vraiment, je me pose qu'est-ce que le ministère des Transports pense de tout cela? Nous avons plus besoin d'investissements dans les secteurs de l'aviation où la sécurité des passagers prime aussi. Hein, c'est un peu l'actualité qui a retenu mon attention avec le cas de Air Kasaï à Kongolo dans le Tanganyika. Nous nous posons la question de savoir comment fonctionne l'aérodrome, si pas l'aéroport national, comme on aime bien dire, l'aéroport national de Kongolo. À quelle fréquence les avions volent et descendent et quelles mesures de contrôle il y a sur place.
Et dans quel état se trouve cet aéroport-là?
Exactement, exactement. Et je ne pense pas que cette piste capable de supporter les trafics à ce moment-ci. Il faudra quand même qu'il y ait des travaux même en terre battue ou quelque chose comme cela pour qu'on puisse la faire fonctionner. Je pense que le gouvernement congolais doit placer la sécurité des passagers avant les investissements dans les secteurs de l'aviation.
C'est retenu, nous, cher Jerry Ngoua, nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMedia.net, un organe qui des diffusions en ligne de proximité. On vous garde ici au studio. Merci à chacun de vous d'avoir décortiqué pour nos auditeurs l'actualité qui a captivé personnellement votre attention le long de cette semaine qui est en train de finir.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Les premiers thèmes de ce soir concernent l'investiture du président américain Donald Trump, officiellement installé en tant que 47e président des États-Unis le 20 janvier dernier. Lors de la cérémonie d'investiture qui s'est tenue sous la coupole du Capitole à Washington, il a prêté serment en posant une main sur une Bible héritée de sa mère. Dans son allocution, Trump a déclaré que l'âge d'or de l'Amérique commence dès à présent et a promis de nombreuses actions pour son second mandat. Comment commentez-vous ces sujets? Nous commençons par vous, Jack Furaisha. Nous rappelons que vous êtes directeur de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie dans la province du Tanganyika.
Oui, merci Tati. Ce qui est vrai, on a tous suivi l'investiture du président, du 47e président américain, Donald Trump. Mais c'est vrai quand Donald Trump dit dans son message que il a promis de nouvelles actions pour qui? Pour les Américains ou pour nous? Parce que avant son investiture, il y a eu une polémique élargie dans notre pays où tout le monde commentait sur une certaine participation des deux personnalités congolaises à cette investiture. Et pour nous, Congolais, moi je pense que son message n'est pas vraiment le bienvenu. Pourquoi? Tout simplement parce que quand, avant son investiture, il y a des rumeurs sur l'invitation d'un cas de l'opposition. À mon avis, ce message doit faire peur aux Congolais et ça ne doit pas beaucoup plus intéresser le peuple congolais que nous sommes. Je disais avec Barack Obama, la tête de l'Amérique, on avait on avait un calme, moi je peux dire un calme chez nous en Afrique, mais quand Donald Trump a pris le pouvoir pour la première fois et succédé par Joe Biden, on n'a pas connu ce qu'on attendait, ce qu'on devrait on devait entendre de tous les messages qu'ils ont toujours fait quand ils prêtent serment. Aujourd'hui, c'est le Congo, demain c'est les pays de l'Ouest. Donc, bien sûr qu'on peut dire qu'il y a plusieurs pays, qu'il y a l'Union européenne, qu'il y a etc. Mais moi, je pense que le message de Donald Trump dans son allocution, les mots clés de son allocution, n'est pas vraiment d'impact très très capital pour nous en RDC et en Afrique en général.
Merci beaucoup Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef, directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi dans les Tanganyika. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, Pascal. Comment commentez-vous cette actualité concernant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier dernier aux USA comme président 47e président de la République?
Tout d'abord, c'était pas une surprise pour moi. J'ai suivi la campagne électorale américaine et au regard des projets politiques, les idées politiques de Donald Trump, il ne pouvait qu'arriver à être réélu comme président des États-Unis. Parce que quand vous avez vu quelle a été la campagne des démocrates, les démocrates ont fait appel aux artistes et musiciens pour expliquer. Non, mais alors Donald Trump était direct. Il a un style direct sur le management politique, sur l'économie. Il a apporté des idées. Nous allons surtaxer les produits venant de l'extérieur pour créer de l'emploi. Nous allons créer des emplois. Par contre, ces discours de création des emplois aux États-Unis n'étaient pas du côté des démocrates. Donald Trump parle immigration. Pour lui, il n'est pas contre l'immigration régulière, mais il est contre l'immigration irrégulière. Mais il faudra comprendre que Donald Trump a été élu par les Américains pour les Américains. Il n'a pas été élu par les Congolais pour les Congos. Parce que beaucoup de Congolais qui ont suivi pensent, oui, Donald Trump est venu, c'est la fin de la guerre dans la partie du pays, mais qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire que pour nous, il est arrivé, c'est un partenaire, les États-Unis sont un partenaire pour la RDC, mais il faudra que nous aussi nous arrivons à mettre en place des bonnes politiques publiques pour offrir aux Américains. Prenons par exemple, pourquoi ne pas traiter d'égal à égal avec en matière commerciale avec les Américains? Si aujourd'hui Joe Biden est arrivé en Angola pour relancer cette voie ferrée de l'Obito, mais c'est pour puiser nos matières premières. Qu'est-ce que nous offrons? Nous allons offrir les matières premières brutes ou bien nous devons aussi ajouter une valeur ajoutée? Disons, excusez-moi, passez-moi cette expression. Ajouter, c'est quelque chose de valeureux dans ce que nous voulons vendre. Donc, aujourd'hui, moi j'apprécie les idées fortes de Donald Trump. Il prouve à travers le monde que si vous avez des bonnes idées, vous pouvez transformer la société. Et il faut aller loin. Cette folie qui est aux États-Unis, je prends le terme du professeur Nkeretanda, qui me dit, c'est un professeur qui est aux États-Unis, de temps en temps il passe ici à la radio Biwan, il vous dit comment comprendre. On veut faire la promotion de LGBT, légaliser des choses. Non, pour Donald Trump, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. On doit revenir à l'état naturel de la création de l'être humain. C'est-à-dire, vous voyez, il veut restaurer des valeurs humaines au niveau des États-Unis. Donc, aujourd'hui, pour moi, il faudra comprendre Donald Trump à travers ses idées, à travers ses projets. Donald Trump se retire de beaucoup de structures, beaucoup d'institutions, parce qu'il a remarqué que ce sont les Américains qui contribuent. Vous vous rappelez à l'époque, quand il a pris le pouvoir, même la MONUSCO était menacée. Ils ont dit qu'ils doivent, les Américains devaient se retirer même de financer les activités de la MONUSCO. Donc aujourd'hui, il faudra comprendre. Donald Trump parle États-Unis. Comment améliorer les conditions des Américains?
Oui. Chers collègues, cette fois-ci aussi, il a souligné les retraits des financements de l'OMS. Donc, donc c'est parmi les séries de mesures que Donald Trump compte prendre. Donc, la suspension de financement de l'OMS, le retrait de l'accord de Paris.
Pourquoi les États-Unis sont le plus grand contributeur dans toutes les institutions? Et les autres, ils amènent quoi? Même dans l'OTAN, pour la sécurité de l'Union européenne, c'est les États-Unis qui sont le plus grand contributeur. Et ça m'a fait rire. J'ai vu l'élection de Donald Trump, l'Union européenne s'est réunie et j'ai vu Macron dire mais ce sont les élections des Américains. Pourquoi ça fait trembler les Européens? Donc il y a quelque chose. 2025, beaucoup de choses vont bouger, mais par rapport à nous Congolais, nous devons profiter dans le sens que si Donald Trump est direct avec nous, l'État congolais, dans le sens de commercer avec les États-Unis, ça sera une aubaine pour nous les Congolais d'en profiter pour que les choses bougent. Vous savez, Donald Trump, il est républicain. Les républicains ont notre regard par rapport à cette guerre dans la partie Est. Même si ça les intéresse pas, mais il y a un autre regard. Donc, il appartient à nous Congolais, de mettre en place des bonnes politiques publiques pour collaborer avec la nouvelle administration américaine et ça va être profitable pour nous. Parce que les Américains ont besoin des matières premières, qu'on ne se trompe pas. Ils cherchent le coltan, ils cherchent de l'lithium. Mais ces matières premières se retrouvent dans la zone où il y a la guerre. Donc, avec l'arrivée, si nous commençons très bien, cette guerre dans la partie est du pays peut finir parce que les États-Unis constituent une grande puissance à travers le monde. Donc, il appartient à nous, notre diplomatie, il appartient à nos commerçants, il appartient à nous, Congolais, de comprendre comment collaborer avec la nouvelle administration. Vous savez, les Américains sont hostiles à tout ce qu'il y a comme détournement de fonds publics, à tout ce qu'il y a comme injustice au niveau de la justice. Donc, il faudra que nous puissions montrer que nous sommes capables de collaborer avec vous, la nouvelle administration, et les bonnes choses iront de l'avant. Donc, collaborons de manière à nous être profitable à cette nouvelle administration qui est arrivée. Et je sais que avec Donald Trump, si nous collaborons bien, beaucoup de choses vont changer par rapport à notre pays aussi. Et les Américains vont en profiter. Nous aussi, nous allons en profiter. Comme a toujours dit le chef de l'État, coopération gagnant-gagnant.
Merci beaucoup, Pascal Kambala. Nous vous gardons en ligne et rappelons en même temps que vous êtes journaliste de la rédaction de la Radio Biwane, un média basé ici à Kinshasa. Je me tourne vers vous, Jiringua. Vous êtes en face témoin. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMedia.net. Quelle analyse faites-vous sur cette actualité internationale qui aura certainement des implications sur les nations africaines?
Tati, merci. Et comme on dit, gérer, c'est prévoir. Vous voyez.
Gérer ou gouverner, c'est prévoir.
Ouais. En ce qui concerne l'apport que les États-Unis accompagneront quoi, la RDC, nous n'avons pas prévu. Nous avons suivi la campagne à la télé comme un match de foot. Mais nous n'avons rien prévu pour collaborer avec Donald Trump. Je suis en train de voir un aspect. Le chef de l'État est allé vendre l'économie de la RDC à Davos. Qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu ces projets de conservation qu'on appelle
couloir vers Kinshasa.
Ben oui, c'est le mieux que le chef de l'État pouvait vendre. Nous savons tous que Donald Trump tient à se retirer de l'accord de Paris. Donc l'histoire de environnement et réchauffement climatique, il considère ça comme un.
Il a dit même les fossiles, ils vont continuer à pourrir.
Ouais, oui. Et d'ailleurs, il propose à ce que et qu'il y ait une journée comment on appelle des libertés énergétiques chez eux pour la célébration des industries pétrolières.
Oui, vous voulez utiliser le véhicule à gasoil, c'est vous. Si vous voulez utiliser le véhicule à essence, si vous voulez, voilà. La liberté à chacun de faire son choix.
Exactement. Vous voyez, dans ce sens-là, déjà, nous avons un faux départ. Et ce faux départ n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis Biden. Pourquoi? Parce que lorsque Biden devait aller en Angola, nous avons été invités à la dernière minute.
On a été un peu entraîné.
Ouais, ouais. On a
dans
été
dans les projets.
Ben oui, c'est pour embellir l'histoire parce que la raison d'être de ce couloir là, de ce corridor, c'est
les minéraux. C'est la sortie de Dominé.
Ouais, ouais. Mais il y a encore beaucoup de chances que la RDC pourra exploiter dans cette histoire. Pourquoi? Parce que nous savons tous que les hommes d'affaires ont soutenu Trump pour son accession à la présidence pour la deuxième fois. Et dans cette histoire-là, il y a un autre aspect. Donald Trump voudrait faire plaisir à tous ceux qui l'ont soutenu, notamment Elon Musk et tout cela. Il a d'ailleurs donné un département à Elon Musk qu'on appelle d'efficacité ou quelque chose comme cela pour le suivi de trucs. Mais il y a aussi autre chose que Donald Trump est en train de pousser, c'est la suppression des limites sur les donations politiques, c'est-à-dire l'assouplissement de restrictions sur les financements électoraux. Ces gens qui l'ont soutenu doivent se faire l'argent, ils doivent être
récupérer les capitaux investis dans la campagne.
Ouais, ouais. Et ces gens-là, ils sont dans la technologie. Nous savons que nous avons tous les minéraux nécessaires pour faire avancer la technologie. Ben oui, si nous ne l'avons pas prévu, nous pouvons le faire maintenant pour négocier un partenariat avec les États-Unis afin que ces gens-là soient remboursés. C'est pas quelque chose qui déplairait à Trump, parce qu'il est redevable à ces gens-là.
Et c'est pas pour rien que son prédécesseur est venu lanceur les travaux du corridor de Lobito avant qu'il ne quitte le pouvoir.
Exactement, exactement. C'était un peu pour essayer d'aplanir et tout cela pour ces genres de trucs. Parce que vous vous rendez compte qu'à un point, il y a des pays qui vendent du minerai congolais, tel que le Rwanda, alors que la RDC elle-même n'est pas à mesure de quoi. Voilà, nous avons tous entendu les histoires de raffineries, les raffineries de l'or, de tout cela, et qui la RDC est entrée en partenariat afin que l'or de la RDC soit traité au Rwanda. Vous voyez, je vais prendre l'exemple du Botswana, par exemple. Le Botswana, aujourd'hui, est en montée. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que tous nos minéraux doivent être travaillés ici.
Localement.
Oui, oui, localement. Et ben, ne vous en faites pas. C'est chaque matin où vous trouvez 5-6 jets qui viennent de la Belgique pour venir acheter quoi.
Le minéraux transformé.
Oui, transformé et aller vendre dans leur marché chez eux. Donc, si bien calculé, nous pouvons encore rattraper et solidifier nos relations avec les États-Unis, avec Trump. Mais à ce moment-ci, nous nous attendons à rien. Pourquoi? Parce que l'histoire de changement climatique, réchauffement de la planète, ça ne dit rien à Donald Trump.
En même temps aussi, Donald Trump, à son investiture, il a souligné la réduction des fonds alloué à l'OMS, alors qu'il y a des maladies émergentes, il y a des maladies tropicales négligées. Voilà, donc ça, il y aura des incidences dans les nations africaines.
Oui, Donald Trump, c'est un homme d'affaires through and through. Donc, il y a rien d'autre à part les affaires. Les hommes d'affaires n'aiment pas le gratuit. Alors, la RDC a longtemps vécu du gratuit. L'OMS, tout ça, des tas de trucs, USAID, tout cela. Bon. À un point, ça doit s'arrêter. Alors, c'est très bien et c'est pertinent qu'en RDC, en dehors des maladies, nous avons des camps de réfugiés qui vivent de l'aide internationale et majoritairement les fonds américains. Et avec ça, nous ne sommes pas dans le bon cahier de Donald Trump. Nous devons chercher à nous reconstruire et à faire mieux pour attirer ce partenariat avec l'administration Trump.
Merci à vous tous d'avoir décortiqué ces thèmes se rapportant à l'investiture de Donald Trump comme 47e président des USA le 20 janvier dernier. Le deuxième et le dernier thème de ce soir concerne, chers collègues, la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Dans la province du Nord Kivu, la situation sécuritaire reste incertaine à Goma et ses environs depuis hier. Aucune communication officielle sur la situation à Sake, située à une vingtaine de kilomètres kilomètres de Goma, qui serait tombé entre les mains du M23 soutenu par les Rwandais selon plusieurs sources. On aperçoit de nombreux mouvements des populations se déplaçant vers Goma dans des quartiers plus sûrs. Et par ailleurs, des blessés sont également transportés sur des motos et par d'autres moyens de transport vers les hôpitaux. Le gouverneur militaire a même interdit la navigation lacustre pour des raisons de sécurité. Quelle analyse faire de cette situation sécuritaire qui s'est rapidement dégradée à l'est du pays, spécialement à Goma et ses environs? Je commence par vous, Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie, dans les Tanganyika. Comment commentez-vous cette nouvelle liée à la situation sécuritaire à l'est du pays?
Oui, ce qui est vrai, Tati, la situation sécuritaire à l'est de notre pays, c'est vraiment déplorable et ça fait mal. Ça fait mal parce que, tout simplement, à mon avis, il y a un laisser-aller, une négligence des autorités de Kinshasa. Comment se fait-il que... On avait commencé par Bounagana. Bounagana a été récupéré par l'ennemi depuis un certain moment. Mm. Et Kinshasa est resté calme. Aucune réaction pour sauver Bounagana. Maintenant, c'est depuis Bounagana...
Bounagana est sous occupation depuis plus d'une année.
C'est Masisi.
C'est Masisi, oui.
Mm. Plus d'une année. Mm. C'est Masisi. On récupère Masisi sous un calme tout le temps. On ne sait pas. Peut-être ils sont dans d'autres provinces du Sud Kivu parce que tout simplement, vous allez vous rendre compte qu'il y a laissé aller, laissé faire dans ces pays. Maninova se calme. Aujourd'hui, hier, c'était Sake à 20 kilomètres de Goma. Peut-être dans la ville de Goma, il y a déjà l'ennemi sans le savoir. C'est pas pour rien que le gouverneur militaire doit dire pas question de trafic sur le lac Kivu. Il faut être vigilant. Imaginez. Il y a une certaine négligence de la part du gouvernement congolais.
Non, cher collègue, à l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, il a décrété l'état de siège, il a nommé des gouverneurs militaires à la tête du Nord Kivu et puis en Ituri. C'est dans les buts de ramener la paix dans la région. Donc, on suppose qu'il y a des initiatives qui sont prises pour ramener la paix dans cette partie du pays, cher collègue.
On avait décrété l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri, Bounagana n'était pas encore dans les mains de l'ennemi. Mais je fais juste après, c'est quand il y avait des gouverneurs militaires, ça je t'ai dit vrai, Tati. C'est quand il y avait des gouverneurs militaires que Bounagana a été récupéré, et c'est quand il y a des gouverneurs militaires que Masisi est tombé, Minova aujourd'hui, et après Minova c'est Sake.
Oui, on parle d'affrontement autour de Sake, oui.
On ne sait pas si... Oui. Les alentours de Sake, bien sûr. On ne sait pas si ces mêmes ennemis sont aujourd'hui dans Goma. Moi, je pense que la bonne manière serait d'aller autour d'une table pour sauver cette population.
Merci beaucoup, Jacques Fouraïcha. Nous rappelons que pour votre analyse, nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie, dans les Tanganyika. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala. Vous êtes journaliste à la rédaction de la radio Biwan. Dites-nous, comment commentez-vous cette actualité relative à la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo? On parle des affrontements à Sake.
Oui, merci beaucoup, Tati. Vous savez, qui veut la paix prépare
la guerre.
Nous sommes agressés. Ici, je parle en tant que citoyen. Nous sommes agressés par un pays voisin. Et quelle est la réponse à donner face à cette agression? Non, vous savez, on doit faire très attention. Ça fait plus de 30 ans, le sang coule dans la partie est du pays. Et ce sont les Congolais qui sont endeuillés. Ce sont les enfants qui n'étudient pas. Ce sont les mamans qui sont fuies, qui ont été tuées, massacrées, violées. Ce sont des papas. Nous devons être conscients, nous, Congolais. Regardez ce qui se passe dans Twitter, dans X, hier X. Regardez ce qui se passe dans YouTube. Et sommes-nous conscients que nous sommes agressés? Quel est le comportement de nos autorités? Quel est le comportement de la classe politique? Nous sommes agressés, la classe politique est divisée. Ça, c'est pas une classe politique. Moi, je vous dis, la réussite de cette situation ténébreuse, c'est la guerre. Si les négociations ne tiennent pas, c'est la guerre. Il faudra que le Congo, que nous arrivions à comprendre, ce n'est pas les Congolais qui ont commencé cette guerre. Les Congolais ont été agressés. Et quelle est la réponse à donner? Parce qu'aujourd'hui, quel est le problème? Nous sommes agressés, et on tue chez vous, on multiplie des pages X, comme on dit à Lingala, il y a le Kuta, c'est une guerre de communication, et finalement, la riposte de la RDC, les ennemis sont chassés des saqués, mais nous, Congolais, même des journalistes congolais, il y a des gens qui participent contre leur propre pays, des hommes politiques qui sont contre leur propre pays. Attendez, aujourd'hui, qui va bénéficier de cette situation? Vous croyez que cette agression vise uniquement le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Non, ça concerne les Congolais. Et regardons tous ces mamans, tous ces enfants qui souffrent dans la partie est du pays.
Oui, chers collègues,
il faut qu'on puisse regarder cela.
Oui, mais
Pascal, quel est le problème?
Pascal.
Aujourd'hui, quel est le problème?
Pascal, nous journalistes, notre métier consiste à révéler les faits, à donner la parole à toutes les parties, à révéler les faits. C'est notre travail à faire et l'information dans la pluralité.
Mon frère, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ce boulot de journaliste. On connaît qui est qui et qui est pour qui. On connaît au Congo, on connaît. Vous ne pouvez pas comprendre un pays agressé. Et ce pays-là, les habitants sont divisés au niveau des catégories. La classe politique divisée inutilement pour des intérêts égoïstes. Mon frère, moi je regarde nos enfants qui meurent, je regarde les femmes violées, je regarde les papas qui ne travaillent plus, qui ont été tués, massacrés. Je ne regarde pas tous ces aventuriers politiques qui cherchent le pouvoir pour rien. Je regarde ceux qui sont en train de mourir injustement. Et que dire de cette communauté internationale? Les gens meurent, les rapports mapping et dans le tiroir des Nations Unies. Tous ces rapports qu'on publie, c'est des rapports pour blesser les Congolais. Il faut que les Congolais se réveillent, que les Congolais manifestent leur souveraineté. Les Congolais doivent se battre pour leur pays. Ce sont les terres des Congolais et les Congolais doivent récupérer leurs terres. Il faut que nous allons vers la confrontation. Je parle en tant que citoyen, je sais pourquoi je l'ai dit. Le pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi partira. Le pays n'appartient pas à Moïse Katumbi. Le pays n'appartient pas à Martin Fayulu, à Vital Kamer, à toute la classe politique. Le pays appartient à tous les Congolais. Et tous les Congolais doivent se battre pour conserver leur pays. Doivent se battre pour que la paix règne. Parce que c'est une injustice, c'est une négligence de laisser nos frères, nos enfants, nos papas tués dans la partie est. Injustement. Et tous ces militaires qui se battent au front. Bravo militaire, bravo Wabalendo. Pensons à cela. Contribution. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Congolais? Regardez la YouTube. Regardez ce qui se passe. Les gens sont dans des distractions alors qu'un pays est agressé. On tue vos frères. Et les habitants, les gens sont dans les palalas. Je ne sais pas ce qui se passe dans les têtes de nous Congolais. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes de la radio Capi? C'est une grande radio. Répertoriez le nombre de morts. La Biwana, c'est correspondant dans la partie est du pays. Nous savons ce qui se passe. À Goma, les enfants n'ont pas étudié. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il y a des manœuvres militaires, parce qu'il y a des gens sont à la recherche de pouvoir. Des gens font couler le sang, inutilement, tués par la population. C'est-à-dire que pour moi, il faut que les Congolais se réveillent. Il faut qu'on prenne des mesures drastiques. Pourquoi ne pas aller suspendre toutes les institutions budgétivores où les gens prennent l'argent inutilement? Et d'ailleurs, il y a même des complices là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a marre de continuer à voir chaque jour, il y a des Congolais qui ont ceci, il y a des Congolais tués, il y a des Congolais qui ont fait ceci dans la partie du pays. Quel est ce pays qui n'arrête pas pour réfléchir et quelle est la réponse à donner par rapport à cette agression? Si les gens ne veulent pas la négociation, mais allons-y, il faut aller en découdre. Celui qui va rester, il reste sur la terre des hommes, c'est tout. Nous tous nous allons passer, nous tous nous allons mourir. Mais il faut qu'on puisse protéger nos frères. Il ne faut pas qu'à Kinshasa, les gens soient en train de boire, manger, fêter, alors que dans la partie est du pays, les gens sont en train de mourir. Il ne faut pas qu'on puisse avoir la classe politique, une classe politique qui fait la honte. Un pays agressé. Un pays agressé, on a même à voir des institutions fonctionner, ce qu'on voit ici dans notre pays.
Merci beaucoup.
Non, c'est normal.
Oui.
Excusez-moi, je vous dis, je suis vraiment peiné de voir ce qui se passe dans notre pays et qu'on laisse nos frères. Quelle est cette vie-là de déplacer? Est-ce qu'il y a une vie pour un déplacé?
Non, on s'amuse avec la vie des gens.
Merci beaucoup.
Demain, il faut pourquiser ces gens-là pour qu'ils vous votent.
Merci beaucoup, cher Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction de la Radio Biwana, un organe de presse généraliste basé ici à Kinshasa. J'ai aimé l'entame de votre argumentaire, qui veut la paix prépare la guerre et la RDC doit se battre pour récupérer ses portions de terre occupées. Je me tourne vers vous, Jiringua. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne, apamedia.net, un média de proximité qui diffuse des nouvelles sur Internet. Comment analysez-vous cette nouvelle relative à la dégradation de la situation sécuritaire à Goma, dans la périphérie de Goma, depuis hier?
Comme vous d'ailleurs, j'aime ce que le confrère Pascal Kambala vient, comment il a commencé
introduit son propos,
qui veut la paix prépare la guerre. Oui, j'aime ça, mais bon, je serais un peu plus radical. C'était prévu qu'à un certain moment, ça qui sera dans la soupe chaude ou comme ça s'est passé hier. Cette guerre ne plaît à personne. Pourquoi? Parce que bien qu'étant à plus de 2000 kilomètres de
Kinshasa, de la capitale,
plutôt de Sake. Nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes impliqués dans cette guerre d'une manière ou d'une autre.
Tout
parce
à fait.
Que je ne pense pas que ça réjouirait quiconque d'entre nous d'entendre aujourd'hui que la RDC a perdu une partie
De son territoire national.
Territoire, que ce soit même un mètre. Oui, mais et avant de relever les mots, il faudra faire d'abord notre propre analyse, savoir comment nous en sommes arrivés à ce point-là. Et cette guerre, nous disons, bon, elle nous a été imposée. Ben, c'est bien. Et loin d'appartenance politique ou tout cela, ben, je suis là, au milieu du village.
Comme journaliste, oui, vous analysez froidement les faits.
Oui. Et, d'après ce que nous avons tous appris, et ces gens qui sont allés former le M23 et tout cela, ce sont des gens qui ont vécu ici à Kinshasa
tout
avec
à fait.
Nous, qui nous ont espionnés, donc, qui ont eu accès à nos camps militaires, à certaines institutions et tout cela. Ils ont compris ce que nous étions, ils sont allés, ils ont commencé la guerre. Et notre armée, à ce point-ci, c'est une armée divisée. Commençons par là. C'est une armée divisée. Il y a trop de structures qu'on ne sait plus qui vous rappelez à un point pendant cette même guerre avec le gouverneur militaire lors de l'ancien gouverneur Constant Dima, il y a eu un chevauchement de rôle à un point jusqu'à ce que il a été écarté de ces trucs. Pourquoi? Parce que à ce point je me pose la question du lieutenant général Pacifique Masunzu, qui est supérieur au gouverneur militaire Peter Chirimwami, de ces deux qui commandent directement le front de
Sake. Les opérations sur terrain.
Oui. Alors, vous voyez, avec ces gens d'histoire, et rappelons que dans la même soupe, il y a un autre ingrédient roumain ou armée privée et tout cela. Donc, c'est comme si chacun se battait de son côté. Et ça, c'est un problème pour nous. Et il y a aussi un autre aspect. Hier, je pense que c'est ce matin, vers 3h ou 4h, et j'ai vu une vidéo de la réaction de l'armée hier. J'ai vu que nous avions des parachutistes. Ça faisait très longtemps. Vous et moi pouvons nous rappeler que en dehors de Kanseta où il y avait des parachutistes, ça faisait très longtemps qu'on a vu. Hier, on les a vus en action. Mais où étaient ces gens-là pendant tous ces temps? Il fallait que les combats
arrivent à la porte de Goma
pour qu'on puisse voir
des parachutistes et autres.
Ça c'est un problème. Nous avons vu la pagaille à Goma hier, où des véhicules militaires se sont retrouvés dans une situation de circulation où un char a heurté une ambulance et tout cela. Ça montre que nous sommes préparés. C'est la panique. Peut-être que cette guerre, c'est du business pour autre personne. Et quand le confrère Pascal Kambala a parlé des journalistes, qui a fait ça, mon frère Pascal, moi je ne suis pas de même avis que vous. Je pense que à un point, après avoir trop crié, il y a un moment, la Lucha avait un message comme rappel chaque matin, on nous rappelait le nombre de jours depuis que Bounagana
la Ghana est sous occupation.
Je ne sais plus si ça continue et tout ça. Ça aurait été intéressant qu'un tel truc soit mis à la RTNC pour qu'on nous rappelle chaque jour qu'il y a la guerre à l'Est. Nos familles, nos frères, nos amis et tout cela. Bon, bref, les Congolais sont en train de souffrir matin, midi, soir. Bon, à force de trop crier, on n'entend pas. Peut-être que les confrères qui sont accusés de soutenir la guerre d'une manière ou par leur publication où on estime qu'ils sont en train de bouffer et tout cela, bon, je pense que peut-être qu'ils sont en train de faire usage de la psychologie renversée. Même nos enfants, quand ils nous demandent quelque chose et que nous répondons d'une manière défavorable, en fin de compte, ils finissent par aller par la psychologie renversée. C'est-à-dire, l'enfant prône le contraire, mais au fond désire prône quelque chose, mais au fond désire le contraire. C'est peut-être ce que les autres sont en train de faire. Hein, vous voyez. Et il y a l'aspect. On parle toujours de dans la soupe de l'armée. J'ai oublié le point Ouazalendo.
Les patriotes.
Ben oui, les patriotes. Mais qui sont ces patriotes?
Est-ce que ce sont des vrais patriotes dans les lots du Ouazalendo?
Exactement. Exactement. Et si les informations que nous recevons du terrain s'avèrent vraies, il y a même des traîtres qui travaillent contre la RDC dans le groupe Ouazalendo. Il y aurait eu embuscade hier dans les après-midi et tout cela, si cela s'avère vrai. Et ça, c'est un coup venu du groupe Ouazalendo. Ben, tous ces groupes Maïmaï là, pour ceux qui connaissent le Maniema et connaissent Walikale et au Nord Kivu et tout, c'est la fête cette route là. Voyez les soi-disant patriotes, ce qu'ils commettent. Comme, ben oui, c'est vraiment atroce. Alors avec cette guerre, nous devons la prendre d'une manière sobre. Hein, ne nous mettons pas à accuser les gens et tout cela. Analysons ce que nous sommes.
Oui, chers collègues, mais pour amener la paix, Jack, les collègues de Kalemi, il a suggéré qu'il y ait négociation, parce que aussi Lorenzo, il y a la semaine écoulée, il était en Angola. Il était en France, avec le président français qui a souhaité la reprise des négociations et que la RDC puisse négocier avec les M23 ainsi que les Rwandais. Les Rwandais, pardon.
Tati, et c'est pas la première fois que je l'ai dit sur ces plateaux. Je l'ai dit une fois. Cette guerre ne finira jamais si on ne va pas sur la table des négociations. Soyons sobres et prenons cette histoire sobrement. C'est la vie des Congolais qui en dépendent. Rappelez-vous que nos frères de Bounagana, nos frères de par-ci par-là n'ont pas voté lors de l'exercice électoral passé. Et si aujourd'hui nous devons aller au référendum.
Et déjà en 2016, ils n'avaient pas voté. Bounagana, ils n'avaient pas voté. Béni, pardon, n'avait pas voté à l'époque.
Exactement. Vous voyez, rendons-nous sur la table des négociations. À un point, nous devons faire des concessions pour mieux et
pacifier l'est du pays.
Exactement.
Je les considère comme votre dernier mot. Merci à vous tous. Hein. Merci à vous tous. Jack Fouraïcha, qui a intervenu depuis la ville de Kalemi dans les Tanganyika. Merci à vous, Pascal, qui a pris la parole ici au niveau de la ville de Kinshasa. Vous êtes journaliste de la rédaction Biwan, basée ici à Kinshasa. Merci également à vous, hein, à vous, Jiringua. Vous êtes rédacteur en chef du média en ligne apamedia.net, média de proximité qui diffuse les nouvelles sur Internet. Excellent début de week-end à tout le monde. C'est par ici que s'achève ce numéro de la tribune de la presse. Tati Mapoukou, c'est moi qui l'ai présenté. Kelly Koute s'est occupé de la coordination de ce numéro. Martin Seboudjangwe l'a supervisé et Pierre Diassinois était à la prise des sons. Prenez soin de vous et excellent week-end.